Donc aujourd'hui, on continue les messages dans l'Épître aux Romains. C'est le 11e message, chapitre 3, Romains chapitre 3, versets 21 à 31. Ça termine le chapitre 3. Et par la suite, on prend une pause. Aujourd'hui, nous allons aborder les sujets la gloire de Dieu, la rédemption, on a chanté de ça tout à l'heure, la justification. Donc, on ne parle pas très souvent. Et on va parler de ce sujet par la foi, sans les œuvres. Donc, juste pour rappeler rapidement, à travers les premiers trois chapitres de l'Épître aux Romains, Paul a bien approfondi le problème du péché chez l'être humain. Et dans, c'est qu'une petite paragraphe aujourd'hui, le petit paragraphe que nous allons voir, Paul va déclarer que lui-même est tout seul, donc sans notre aide, sans l'aide d'une église ou d'une religion quelconque, Dieu a réglé ce problème du péché. Amen. Il dit que le salut est une grâce offerte qui est reçu uniquement par la foi. Vous ne pouvez rien payer. Puis dans le chapitre 4 que nous allons voir par la suite, Paul va prouver que Dieu a toujours agi selon le principe de la foi sans les œuvres. Là, on va voir dans le nouvel an. Donc, je voudrais commencer. Le texte aujourd'hui, c'est Romains chapitre 3, verset 21 au verset 31, mais je vais commencer dans le verset 20 quand même. Romains chapitre 3, verset 20, « Car nul ne sera justifié devant lui, donc devant Dieu, par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Alors, ce mot justifié, et on va faire une petite pause pour parler de la justification, mais juste globalement, ce mot justifié, ce mot veut dire avoir été accordé la grâce de communier avec Dieu. Okay? Donc, par le pardon, Dieu efface nos péchés, mais ça, c'est le négatif qui part. Mais ça ne nous donne pas le positif qui est nécessaire pour être dans la présence de Dieu. Et donc, cette idée de justification est une déclaration, on va le voir tout à l'heure, une justification que Dieu déclare concernant la personne, qui lui permet d'entrer dans sa présence. Donc, ce verset, verset 20, dit que sur la base de nos œuvres, personne n'obtiendra jamais le droit à communier avec Dieu. Ce n'est pas du tout sur la base de nos œuvres. Mais, verset 21, « Mais maintenant, Paul dit, donc bien que les œuvres ne puissent jamais obtenir l'accès à Dieu, maintenant que le Christ est mort et ressuscité en temps réel, donc dans notre histoire, eh bien le pécheur peut obtenir l'accès à Dieu mais seulement par la foi en Jésus-Christ. » Donc, il dit au verset 21, « Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. » Donc, sans ou séparé de la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Donc, cette phrase, la loi et les prophètes, est une expression qui résume ce que nous appelons l'Ancien Testament. Donc, je vois dans le vocabulaire de quelques personnes, quand vous dites la Bible, il veut dire seulement l'Ancien Testament. Hein, pour nous, on dit l'Ancien Testament. Et Paul parlait de la loi et les prophètes pour dire la même chose. L'évangile de Jésus-Christ est totalement biblique, conforme à l'Ancien Testament et même prophétisé dans l'Ancien Testament. C'est même le sujet de l'Ancien Testament. Donc, pour relire le verset 21, « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. » Il n'y a pas de distinction. C'est net et c'est clair. Dieu justifie par la foi en Jésus-Christ ceux qui croient en Jésus-Christ. Ce n'est pas sans la volonté de Dieu et ce n'est pas par nos œuvres. C'est seulement par Jésus-Christ. Quand on a la foi en Jésus-Christ, Dieu justifie ces personnes-là. L'offre du salut est universelle. Quoi que soit la race d'une personne, que cette personne soit homme ou femme, quel que soit le péché, donc vous vous souvenez, on a chanté tout à l'heure le plus vil des pécheurs, n'est-ce pas? Maintenant, dans le verset 23, nous avons un résumé du chapitre 1, 2, 3. Donc, on a eu Romains chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Donc, on a un seul verset qui résume tout ça. Et par la suite, le verset 24 est en fait un résumé du chapitre 4, 5, 6, 7 et 8. OK? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, il n'y a pas de distinction entre les hommes, il n'y a pas juif et grec et tout ça. Vis-à-vis de Dieu, tous ont péché, tous sont privés. Donc, ce mot privé, ça veut dire tomber à court ou manque de la gloire de Dieu. Donc, je voudrais prendre un petit moment pour parler de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est Dieu qui est absolument saint. 1 Timothée chapitre 6 et verset 16 dit que Dieu habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni peut voir. Donc le mot gloire représente cette lumière éblouissante. Avant la croix, la gloire de Dieu se manifestait dans le temple à Jérusalem. Cette gloire divine manque à l'homme pécheur. Nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous n'avons pas accès à ce Dieu glorieux. L'humanité a perdu l'accès à la gloire de Dieu par le premier péché. C'était fini déjà à partir du premier péché. Je vous ai dit tout à l'heure, chacun de nos péchés est absolument, infiniment vil aux yeux de Dieu. Donc cette privation, cette dépravation de l'homme, la profondeur de nos péchés a été dépeinte, comme je vous ai déjà dit, dans les chapitres 1, 2 et 3 de l'Épître aux Romains. Au verset 24, « Et maintenant, ou mais maintenant, ils sont... » Donc, qui est-ce « ils » dans ce verset? « Ils » c'est pluriel, c'est tous les pécheurs. Tous pécheurs, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ce n'est pas automatique, hein? Il faut croire en Jésus-Christ. C'est sous-entendu. Il faut croire en Jésus-Christ. Il l'a déjà dit. Mais ils sont gratuitement, donc ça veut dire sans paiement. Vous ne pouvez rien payer. Il faut recevoir la justification, le salut, par la foi. Justifié par sa grâce, donc vous ne le méritez pas, par le moyen ou à travers ou par l'instrument de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, rédemption, ça se traduit... C'est un mot grec qui traduit rédemption, délivrance, libération. Mais c'est une libération suite au paiement intégral, total de la rançon. Et donc, c'est un mot qui parle du salut chrétien. Donc, je voudrais parler brièvement de ce mot ou de cette idée de la rédemption. Ces mots, donc, rédemption, délivrance, libération et salut. Ces mots nous rappellent de la description biblique des deux royaumes. Donc, il y a le premier royaume, c'est le royaume de Dieu. L'autre royaume, c'est le royaume du diable. nos premiers parents ont été pris en otage, victimes, piégés, capturés par la ruse du diable. Depuis, nous sommes tous nés esclaves dans le royaume des ténèbres. Dans le dernier message, on avait vu cette phrase qui dit que nous sommes tous sous péché. On est tous sous cette catégorie. Il n'y a pas quelques personnes qui sont hors péché. Non, on est tous pécheurs. Et quand Dieu détruira le royaume du diable, toute personne y restant sera également détruite. Pourtant, Dieu a créé, il nous a créés pour communier avec sa personne dans son royaume glorieux. Okay? Vous imaginez, Dieu il est dans, au ciel, il sait tout, que la lumière, la sainteté, tout ça. Et Dieu, il voulait que nous passions l'éternité dans sa présence. C'est pour cela que Dieu a conçu son plan de sauvetage. Il vient nous sauver pour qu'on puisse récupérer cette relation avec lui pour passer l'éternité dans sa présence. Et d'ailleurs, il est venu payer la rançon complète, tout payé pour libérer tous les captifs dans le royaume du diable. Pas une personne qui était exclue vis-à-vis de Dieu, mais plein de monde qui s'excluent eux-mêmes. Ils ne veulent pas. La rançon, c'était la vie de Christ. Immolé sur la croix. La rançon est désormais payée. Une fois pour toutes, il n'y a pas d'autre paiement à faire. Mais les gens ne le savent pas. Les gens ne comprennent pas que Jésus est mort pour le péché. Et c'est pour cela que nous évangélisons. Nous annonçons la bonne nouvelle du salut pour que les gens aient au moins l'opportunité d'être sauvé. Il faut annoncer que la rançon est payée, et cela intégralement. Chacun a le droit, grâce à l'Évangile, de quitter le royaume du diable de son propre gré. Une personne qui entend le message n'a qu'à croire et partir. Le diable n'a plus aucun droit sur elle, sur cette personne qui entend l'Évangile, croit et part. C'est ici la signification de ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 16 et verset 18. « Je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Donc nous, les chrétiens, font le siège de ces royaumes du diable, vu comme un château fort, et les portes sont là, et nous attaquons les portes avec l'Évangile, on annonce à l'intérieur, et ceux qui veulent bien sortir ont le droit, en croyant en Jésus-Christ, de sortir du royaume du diable. Donc quand Jésus a dit ça, il a suivi cette phrase directement avec l'Évangile de sa mort et de sa résurrection. La clé de la libération, donc l'unique clé, il n'y a pas plein de clés. L'unique clé de la libération, c'est l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela que notre verset dit que la rédemption est en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre. On ne peut pas insister plus que ça. Il n'y a pas d'autre salut. La Bible dit dans Actes chapitre 4 et verset 12, « Il n'y a pas de salut en aucun autre, donc autre que Jésus-Christ, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Un seul nom, seulement Jésus-Christ. » Le seul moyen d'échapper du royaume du diable et de sa condamnation, c'est l'Évangile. Ceux qui entendent le message de libération et y croient quittent le royaume des ténèbres pour entrer dans le royaume lumineux de Dieu. Je voudrais aussi prendre un petit moment pour parler de la justification. Donc, nous avons ce mot justifié dans les versets 20, versets 25 et aussi le verset 28. Okay? Donc, comme j'ai intimé tout à l'heure, la justification est la déclaration légale par le juge. Qui est le juge? Dieu, c'est le juge. La justification légale par Dieu que la justice est attribuée à la personne concernée. Il ne suffit pas d'être pardonné. C'est vrai, Jésus est mort pour nos péchés. Mais il est aussi ressuscité. Il est ressuscité pour notre justification. Il faut être déclaré juste. Le pardon est appliqué non pas aux innocents. Le pardon est appliqué aux pécheurs, aux coupables, que nous sommes tous. On est tous grandement coupables. Et la parole de Dieu dit que le sang de Jésus-Christ, Fils de Dieu, nous purifie de tout péché. Donc Dieu efface tout ce qui est négatif. Par contre, la justification ajoute le positif. La justification déclare cette personne est en règle avec Dieu. C'est une déclaration, ce n'est pas une réalité. C'est une déclaration légale. La réalité quotidienne, c'est que maintenant qu'on est ici-bas dans notre corps humain, eh bien, nous sommes toujours pécheurs. Ça, c'est la réalité. C'est par la résurrection de Jésus-Christ que la parole de Dieu déclare notre justification. Non seulement Jésus a payé pour nos péchés, mais il a vaincu la mort. Par sa vie, il nous assure la vie éternelle. Sur la base de l'Évangile, Dieu nous déclare juste. Il nous accorde le privilège, déjà, mais pour l'éternité, de communier avec lui-même dans sa présence. Hein? Pour l'éternité, on peut accéder au trône de la grâce déjà ici-bas. Maintenant, on va regarder le verset 25. C'est lui, donc Jésus-Christ, que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, donc quelques traductions disent expiatoire, afin de montrer sa justice. Donc, on va continuer par la suite. Donc, ce mot propitiatoire, victime propitiatoire, c'est le moyen sacrificiel pour apaiser la colère de Dieu. Jésus-Christ est le moyen sacrificiel pour apaiser la colère de son Père. Afin de montrer sa justice, c'est-à-dire afin de montrer que Dieu est juste et qu'il a le droit de sauver les pécheurs. Puisque c'est lui-même, c'est pas vous, c'est pas moi, c'est pas une religion, c'est lui-même qui a payé de sa propre vie. L'image ici est celui de la divinité en colère avec le pécheur, avec le péché, avec ceux qui commettent le péché, car le péché a gâché sa création. Dans l'Ancien Testament, il y avait l'Arche de l'Alliance. À l'intérieur de l'Arche se trouvaient les deux tablettes des 10 commandements. Mais c'était cassé. Mais les tablettes cassées n'étaient pas visibles, car un couvercle les cachait. Chaque année, au jour d'expiation, le souverain sacrificateur giclait du sang sur le sang de la victime sacrificielle sur ce couvercle que l'on appelait le propitiatoire. Le couvercle ou le propitiatoire était le lieu où le sang expiait le péché, le lieu où la colère de Dieu était apaisée. Jésus est lui-même ce couvercle qui cache nos péchés. Le sang giclé là-dessous est son propre sang. Voilà le message biblique. Jésus est la victime expiatoire, la victime propitiatoire. C'est lui-même qui couvre nos péchés. Dieu ne les voit plus. Dieu ne voit plus vos péchés. Jésus rend le Père propice. Donc, le mot propice, c'est un rapport avec le mot propitiatoire. OK? Jésus rend le Père propice. C'est-à-dire, Jésus rend le Père favorable envers les pécheurs que nous sommes. Désormais, je peux montrer son amour, sa grâce, sa miséricorde envers l'humanité perdue et encore plus envers les croyants en Jésus-Christ. Donc, je recommence avec le verset 25. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa grâce parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Donc, il dit, et parce qu'il a, il avait laissé impunis. Donc, c'est un peu difficile à comprendre. Au premier abord, on pense aux non-croyants. OK? De tous les croyants, tous les non-croyants de l'Antiquité. Et Dieu a laissé impunis tous ces péchés-là. Mais ce n'est pas du tout ce qui est en vue ici. Donc, ce mot, dans le contexte, signifie laisser en suspension. Ici, Paul n'a pas en vue les non-croyants, comme on pense tout de suite, mais il a en vue les croyants. Les croyants qui ont vécu avant la croix. Okay? Cette suspension était un acte provisoire de remettre les péchés en attendant l'accomplissement du paiement. Ainsi, Dieu a permis les esprits des saints de l'Ancien Testament à habiter dans la félicité, dans le sein d'Abraham, dans la chiole, jusqu'à l'achèvement au temps prévu de l'Évangile, jusqu'au moment que Christ a payé réellement pour tous les péchés. Dès ce moment-là, dès le moment que Christ a payé pour les péchés, sur la base donc de l'Évangile accompli, Dieu a pu enfin pardonner tous leurs péchés. Tous les péchés de tous les saints de l'Ancien Testament. Et parce que donc il avait laissé en suspension les péchés commis auparavant, donc commis dans le passé, avant la croix, autant de sa patience. Donc la patience est le temps de ce délai, le temps de cette suspension. Afin, je dis, de montrer, verset 26, sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Donc, Dieu ne peut pas justifier les non-croyants. Il faut que la personne devienne croyant en Jésus-Christ. Donc, quand il parle de le temps présent, ça veut dire l'opportunité actuelle. Okay? C'est cette occasion spécifique que nous avons en Jésus-Christ, c'est-à-dire notre dispensation de la grâce, pendant laquelle Dieu nous confie l'annonce de l'Évangile à travers le monde entier. En ce moment maintenant, Dieu, il dit, pour montrer sa justice dans le temps présent, donc actuellement, okay? De manière à ce que Dieu soit juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est la victime ultime d'expiation dont tous les sacrifices de l'Ancien Testament n'en étaient que des images. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, crucifié avant la fondation du monde. Mais ce n'est que sous l'Empire romain que le Christ allait mourir dans l'histoire. C'est pour cela que c'était en suspension. Abraham, Abel, etc. Oui, Dieu les a sauvés provisoirement en attendant que Christ arrive et qu'il paie vraiment pour le péché. Ainsi, à travers tous les millénaires, la colère de Dieu continuait et persistait. Cependant, sur la base du futur évangile, le jour que vraiment le Christ viendra un jour mourir sur la croix, Dieu a pu, entre guillemets, il a pu avancer les bénédictions et les promesses aux croyants dans l'Ancien Testament. Comme nous lisons aussi dans Luc chapitre 16, on voit bien qu'il y avait dans la Sheol, il y avait ceux qui souffraient et ceux qui étaient dans la félicité. Et c'est ceux-là dans la félicité, c'est ces personnes qui étaient donc dans leur jugement était en suspension. Puis au moment convenu, cette colère en suspension a été déversée sur le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, pendant qu'il pendait sur la croix. Ça veut dire que Dieu a pu faire des promesses, mettre en suspension ses jugements et accorder certaines bénédictions, puisque Dieu connaissait toutes choses d'avance. Il savait quand Jésus allait vraiment entrer dans notre histoire pour mourir. Pourtant, il fallait, vous ne pouvez pas ne pas le faire, il fallait que le Christ meure et ressuscite physiquement à un certain moment dans notre histoire. Sinon, le verset dit que Dieu aurait été considéré injuste en condamnant certaines personnes et en pardonnant d'autres personnes. Mais la justice de Dieu est mise en évidence par l'acte historique de l'Évangile. Dieu ne fait pas une distinction entre les gens sauvés et les gens condamnés. Sur la base d'un prétendu décret éternel que l'on appelle globalement la prédestination. Non, Dieu base cette distinction entre les gens sauvés et les gens condamnés sur le fait historique de l'Évangile en temps réel, dans un corps humain réel, semblable à tous les gens perdus. Dieu sauve ceux qui croient et ceux qui ne croient pas sont perdus, ils sont condamnés. Ceux qui croient en Jésus-Christ sont sauvés. Verset 27. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Alors c'est ça, dans le chapitre 4, 5, 6, 7 et 8, Paul va montrer la loi de la foi. Ok, il va expliquer ça par la suite. Mais là, on ne parle pas encore de ça. Puisque tout a été payé par Jésus, et puisque le salut entier nous est donc offert par la grâce à toute personne de manière égale, personne ne peut se glorifier. Paul lui-même va dire dans Philippiens chapitre 3, versets 8 et 9, que toutes ces justices, toutes ces œuvres, il est considéré comme une perte, comme de la boue. Ça n'avait aucune valeur vis-à-vis de son salut en Jésus-Christ. Et encore, je vais citer Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela, donc on parle du salut, c'est Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 7, parle du salut. Et cela ne vient pas de vous, le salut, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Au verset 28, car nous pensons, et là, c'est un mot qui vraiment, c'est un peu faible comme mot, d'accord? Le mot en grec, ça veut dire penser, bien sûr, mais ça veut dire supposer, raisonner, conclure, estimer. C'est plus que simplement, je pense ceci, je pense cela. C'est un mot qui veut dire que quand on fait le calcul dans son esprit, on fait l'esprit logique, on arrive à une conclusion. Voilà la conclusion. Quand nous concluons que l'homme, n'importe qui, est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Amen. Notez bien que l'être humain est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Alors, pour vous le dire, ceci est la doctrine de la Réforme. Il y a 500 ans, c'était cette grande doctrine qui est venue évidente à plein de monde qu'on pouvait être sauvé sans passer par l'Église. Simplement par la foi. Et quand je dis la Réforme, je veux dire la doctrine des calvinistes, des luthériennes et des anabaptistes. Ils avaient tous la même doctrine de justification par la foi, sans les œuvres. C'était contre cette doctrine que l'Église catholique combattait farouchement. Pourtant, cette doctrine, ce verset, se trouvait et se trouve toujours dans la Bible catholique. C'est d'ailleurs dans ces Bibles catholiques que tous les réformateurs ont appris cette doctrine. Malheureusement, à l'époque, ce qui comptait pour l'Église de Rome, pour l'hiérarchie, c'était le pouvoir et l'argent. Les hommes au pouvoir étaient dans les ténèbres spirituelles, puisqu'ils ne cherchaient pas la vérité dans la parole de Dieu. Ils cherchaient plutôt à maintenir leur pouvoir et leur source de richesse. Une attitude que Jean va appeler dans l'Apocalypse la prostitution. Quelle est cette doctrine si dangereuse pour laquelle des millions d'adhérents étaient traqués et torturés et tués? Quelle est cette doctrine? La justification par la foi sans les œuvres de la loi. Une personne est justifiée. Donc, on se souvient de ce que ça veut dire. Il est mis en règle. Non pas seulement ses péchés sont pardonnés, enlève tout le négatif, mais Dieu rajoute toute la justice à cette personne pour qu'il soit en règle avec Dieu. Il peut entrer, gracieusement, il peut entrer en communion avec Dieu. Mais il faut d'abord connaître, reconnaître les symptômes de la maladie. Sinon, vous n'irez pas voir le médecin. Chez le médecin de l'âme, nous apprenons que tous ont péché. Vous avez péché. Moi, j'ai péché. Par l'Évangile, Dieu pardonnera vos péchés et il vous mettra en règle avec lui, vous assurant la félicité éternelle dans sa présence glorieuse, à être sauvé. Okay? Mais c'est par la foi. Vous n'avez rien à faire. Sauf croire. Si vous ne croyez pas, ça ne fait aucun bénéfice pour vous. Donc, ne cédez pas à la tentation de dire que cela est trop facile. Oh, il faut simplement croire, c'est trop facile. Non. Le salut est justement accessible à toute personne, comme on a chanté tout à l'heure, au plus vil des pécheurs. Donc, Dieu s'adresse à vous. Par la foi, sans les œuvres. Vous ne pouvez rien faire. Donc, vous n'avez rien à faire, mais vous ne pouvez rien faire. Sauf croire. Il y a une chose que vous pouvez faire. Avoir confiance dans l'Évangile, dans la parole de Dieu. Ne soyez pas orgueilleux en pensant que vous pourriez faire quelque chose. Ou peut-être si je grimpe sur une montagne, ou si je fais un jeûne pour longtemps, comme ça Dieu peut m'accepter. Non. Vous ne pouvez rien faire sauf croire. Toutes les prétendues œuvres salutaires insultent le Dieu des cieux. Lui, il est descendu ici-bas, il a pris une forme humaine, il a passé sa vie ici, et puis il a cédé en mourant sur la croix. Et vous voulez brûler une bougie ou quelque chose à la place de ça? Dieu ne l'accepte pas. Humiliez-vous. Croyez seulement. Croyez en Jésus-Christ. Verset 29. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens, le Dieu des païens? Oui, il est aussi des païens puisqu'il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Un seul Dieu, et ce Dieu justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Donc, ça veut dire tout le monde. Pour tous, la justification est par la foi. Donc, Paul pose la question dans le verset 31. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là, certainement pas. Au contraire, nous confirmons la loi. Donc, je prends quelques versets et je les mets ensemble, mais l'idée c'est que nul n'est justifié devant Dieu par la loi. Cependant, la loi est sainte et le commandement est saint et juste et bon. Car par elle vient la connaissance du péché. Par elle vient notre connaissance, la connaissance de notre manque de justice. Nous sommes privés de la gloire de Dieu. Ce qui nous fait revenir au verset 21, au verset 24. Donc verset 21. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, je vous pose quelques questions aussi à ceux qui peuvent être sur Internet. Avez-vous cru en Jésus-Christ? Avez-vous accepté la rédemption en Jésus-Christ? Avez-vous obtenu la grâce de communier avec le Dieu créateur? Donc, à l'autre côté, par la foi en Jésus-Christ, nous sommes libérés du poids de nos péchés, car Jésus a déjà payé le prix de notre rançon, le prix complet. Par la foi en Jésus-Christ, nous avons accès au trône de la grâce, nous entrons déjà dans la présence de ce Dieu glorieux. Par la foi en Jésus-Christ, nous avons l'assurance de passer l'éternité dans la présence de Dieu, dans la gloire céleste. Comme Jésus a dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, je vais vous préparer une place. Donc, après une pause de quelques semaines, nous allons aborder le chapitre 4, et là, Paul va montrer ses preuves de la véracité de ces versets, surtout le verset 24, c'est-à-dire que l'on est sauvé par la foi et sans les œuvres.